podcast de l'UA. J'aurais une dernière question à t'adresser. Maintenant que tu as soutenu cette thèse, que tu travailles sur la publication au Classic Garnier de cette réflexion, publication qui impose toujours, on le sait, de réduire le nombre de pages, le nombre de signes, j'aimerais savoir dans le moment dans lequel tu te trouves de ta réflexion, à quoi tu ne renonceras pas dans ce travail.
Un aspect qui me paraît central dans la thèse et qui est visible dès son titre, bâtard, pape et roi, normes et discours, c'est l'interaction entre normes et discours. Et c'est moi ce à quoi je tiens et ce qui me paraît essentiel dans la thèse, c'est le fait que les pouvoirs souverains en construction, que sont la papauté et la royauté, en appliquant des normes et en les produisant, elles produisent aussi un discours. Et ce discours, il s'apparente à une forme de morale sociale autour de la bâtardise. Et ça me paraît essentiel. Cette morale sociale, elle passe déjà par la retranscription du stigmate que constitue la bâtardise, ce stigmate socio-culturel, mais aussi juridique, bien évidemment. Et ce stigmate, il passe par un discours aussi. Dans les actes pontificaux, par exemple, les bâtards qui vont être dispensés et qui vont pouvoir intégrer les ordres, on va mettre en avant le fait qu'ils ne sont pas retombés dans l'incontinence paternelle pour laquelle, pourtant, ils auraient eu tendance à être favorisés. C'est-à-dire qu'on part du principe que parce qu'ils sont nés d'un péché, ils vont avoir plus tendance à commettre ce même péché. Ce péché d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Et en contrepoint, pour justifier la réhabilitation, on va mettre en avant la bonne fama du bâtard. Et ça me paraît essentiel, c'est-à-dire que on va produire une morale sociale non seulement du stigmate, mais aussi de la possibilité de la réhabilitation. On va estimer que un bâtard peut être réhabilité, soit par une dispense, soit par une lettre de légitimation, parce qu'il a fait preuve de sa bonne fama. Je peux pour cela citer un exemple qui est assez parlant. C'est dans des lettres de légitimation de décembre 1368, donc la cote JJ99, folio 135 verso. Ces lettres de légitimation, elles sont accordées à un bourgeois de Douai, du nom de Martin de Goya, et il avait été élu à la fonction d'échevin, ce bâtard. Et cette élection, elle se voyait contestée en raison de sa naissance illégitime. Et dans les lettres de légitimation, le roi, il met en avant les qualités du bâtard et ses mœurs exceptionnelles, sa bonne fama, et il va explicitement dire que ledit Martin et sa postérité doivent pouvoir rester dans l'office et l'honneur des chevins et y accéder. Et à tout cela, nous l'habilitons et nous le restituons dans sa bonne fama. Ce qui sous-entend que la bonne fama, si elle existait socialement par les qualités et les mœurs dont faisait preuve le bâtard, elle devait être sanctionnée juridiquement par le pouvoir souverain. Et ça me paraît essentiel. Ça montre que pour avoir accès à une réhabilitation, il fallait non seulement avoir une existence sociale irréprochable, mais en plus de cela, il fallait solliciter le pouvoir souverain afin que ce pouvoir puisse constater cette bonne fama. Et c'est le constat de la bonne fama qui permet la réhabilitation. Je vais vous lire un préambule de lettre de légitimation adressé à Jean de Porte-Estel le 1er avril 1352. Donc, d'abord, je vais peut-être introduire un peu ce qu'est un préambule. Un préambule, c'est l'introduction d'une lettre royale ou d'une lettre pontificale. Et dans ces préambules, on va avoir accès à un exercice de rhétorique qui a pour but de donner la portée morale de l'acte. Donc c'est vraiment retirer la substantifique moelle de l'action du pouvoir souverain qui est en train de se faire en généralisant à toutes les situations au-delà de l'acte spécifique et du cas spécifique qui est en jeu. Ce préambule, il est intéressant parce que si c'est un préambule qui est dans une source royale, ce préambule, il n'est pas inventé à la chancellerie royale. Il est inventé à la chancellerie pontificale au XIIIe siècle. Et à la fin du XIIIe siècle, ça devient le préambule le plus utilisé dans les dispenses pontificales qui permettent à des bâtards de rentrer dans les ordres majeurs, qui permettent aux bâtards d'accéder à la prêtrise. Et ce préambule, il est repris dans des lettres de légitimation, d'abord ponctuellement par les clercs du roi, ce qui montre que les clercs du roi connaissent les lettres pontificales, qui connaissent la rhétorique utilisée à la chancellerie pontificale. Et progressivement, ce préambule, ça va devenir aussi celui qui est le plus utilisé dans les lettres de légitimation à la chancellerie royale. Donc on a un même préambule qui est utilisé à la fois par la chancellerie pontificale, à la fois et par la chancellerie royale, et jusqu'au point de devenir le plus utilisé dans ces deux institutions. Donc je vous le lis et vous verrez que ça illustre parfaitement la morale sociale que ces pouvoirs souverains entendent diffuser autour de la réhabilitation et de la bâtardise. Les enfants illégitimes que l'honnêteté de la vie orne ne sont en rien ternis par le vice de la nature. Car la beauté de la vertu efface la tache de la naissance chez les enfants. Et la pudeur des mœurs fait disparaître la honte de l'origine. En réalité, qu'importe d'où quelqu'un naît s'il peut surpasser cette naissance. En effet, la splendeur de la probité brille davantage dans l'humilité que l'orgueil de la naissance dans la grandeur.
Et c'est sur la lecture de cet extrait, traduit du latin, des lettres de légitimation adressées le 1er avril 1352 à Jean de Portestel, que se termine cet entretien avec Romain Chevalier.
Peu importe ce que les bâtards visent ou ce que les bâtards disent, je suis accueilli par la MIF comme Lee Welling à Cardiff. Je veux pas savoir ce que ça peut faire de perdre son frère, subir ce qu'on subit mon père, son père et le père de son père. Faut esquiver les vides poissards, les vides bâtards, pour chasser comme les albis jouant en pays Qatar. J'essaie d'être des miens et des vôtres, j'essaie de travailler sur mes défauts et tirer mes instincts médiévaux. Cette guerre contre moi-même durera pas 100 ans. J'essaie d'assurer la filiation, rendre fiers les ascendants, mais on se trimballe des mines de cafards, un stylo, un style de barbare, pour mettre en musique des rimes de bâtard. Il nous faut juste une prise, un tel ou un thème. Nous on sera jamais les fils d'un tel ou un tel. Donc on suit nos propres schémas. J'emprunte mon propre chemin quand je ferme la porte de chez moi. Des données, des nourris, des maculés, des tâches. Des rimes gâchées, des cris, des raturés, des pages. Je prie pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus. Des vues brisées en deux, des roues qui veulent pas tourner. Des éclairs s'il y en a pas une seule par journée. Pour que la chance ne tarde plus, je veux pas être un bâtard de plus.